sur La Nuit, un patrimoine radiophonique.
Hommage à Martin Heidegger, un philosophe très contesté, très profond pour les uns. Il est celui qui dépasse l'histoire de la philosophie occidentale. Et pour d'autres, il est l'auteur d'un pseudo-langage proche du Galimatia. C'est ce que pensait par exemple Yankelevitch, qui ne lui a jamais pardonné son silence après 1945, ni son engagement de 1934 aux côtés du nazisme à ses débuts. En Allemagne, après la défaite, les intellectuels allemands n'ont plus voulu entendre les sirènes, les brumes, l'irrationalisme supposé de Heidegger. Il avait échoué. Les intellectuels allemands voulurent restaurer la communication, des énoncés acceptés par tous. On développa, en Allemagne, une philosophie de la raison dans le langage. En France, ce fut l'inverse. Là, du rationalisme, du cartésianisme, qui avait également échoué, on se tourna vers Heidegger. Il parlait de l'homme, non comme animal rationnel au sens de Descartes, mais comme simple existant dont le premier mobile est l'angoisse. Sans se laisser arrêter par les compromissions de Heidegger, les passeurs français furent nombreux, de Jean Bouffray à Costas Axelos, en passant par Jean Val, Henri Corbin, Jean-Paul Sartre. Tous les penseurs de l'après-guerre se sont formés à cet enseignement à travers être et temps. Heidegger lui-même vint en France grâce à eux, alors qu'il restait assez effacé en Allemagne, bien qu'il eût retrouvé sa chair après une période de purgatoire. Des poètes français comme René Char appréciaient qu'il eût considéré la poésie comme l'égale, au fond de la philosophie, la poésie capable de penser et de donner à penser aux philosophes. Nous allons rediffuser dans les nuits de France Culture des documents philosophiques autour de Martin Heidegger, les entretiens de Jean Bouffray avec Frédéric de Tovarniki, deux émissions de Jean Val sur Heidegger et Hölderlin. Cette nuit, voici le premier de ces documents. C'est un hommage à Martin Heidegger par Philippe Nemo, réalisé peu après le décès du philosophe en 1976. Costas Axelos, Henri Birot, Henri Corbin, Michel Arr, Roger Munier racontent ici leurs souvenirs et l'élan que la pensée de Heidegger a imprimé à leurs propres réflexions.
Lorsque je suis allé voir Heidegger, j'ai eu peur de lui parler de l'être. Et lâchement, je me suis réfugié dans une conversation sur la musique. Quels sont vos musiciens préférés, lui ai-je demandé. Et il m'a répondu à la façon d'un professeur, d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup fait peur. N'avez-vous pas lu mon livre, Le principe de raison ? Je lui dis, si. Eh bien, à la cinquième conférence, c'est un cours, je cite une lettre de Mozart à son père, où Mozart dit, je cherche les notes qui s'aiment. C'est le seul musicien dont j'ai cité un texte dans mon œuvre, et pour qui sait lire, cela veut dire que Mozart est mon musicien préféré.
Le philosophe allemand Martin Heidegger est mort le 26 mai 1976, âgé de 87 ans. C'était le plus grand philosophe de notre temps. L'enthousiasme de ses disciples l'entourait, mais aussi le silence dubitatif de ses adversaires. Face aux grandes questions que se pose l'homme, l'existence du sacré, la morale, la politique, l'avenir, il n'avait pas cette attitude qui est celle des religions et des idéologies. Martin Heidegger n'était pas réactionnaire. Mais il n'avait pas non plus l'attitude de fuite, de dénégation et de refoulement qui caractérise les philosophies ou modes de pensée marxistes, scientistes et modernistes. Ces grandes questions que se pose l'homme, tout à la fois il les posait, leur redonnait un sens, et il n'y répondait pas avec les vieilles réponses. Il a donc donné à la génération philosophique du XXe siècle l'espoir d'une renaissance philosophique qui ne serait pas une caricature du passé, et quant à la forme, il était d'une subtilité suffisamment hors du commun pour imposer le respect et la prudence même à ses adversaires les plus acharnés a priori, ceux qui ne voient en lui qu'une seule chose, à savoir qu'il a été en 1933-1934 un membre du Parti national-socialiste allemand. Puisque Heidegger est une référence commune à toutes les idéologies contemporaines, puisqu'il est à la fois le plus grand et le dernier des philosophes, sa mort sera le point de départ d'une longue série de travaux d'analyse, d'exégèse, de controverses. Mais, dès à présent, France Culture se devait de saluer la disparition du grand penseur et de la saluer non pas d'abord par des analyses, des exégèses et des controverses, mais par un simple hommage. Que veut dire hommage ? Une présentation aussi fidèle que possible des grands thèmes et des grands acquis de sa pensée, et aussi le témoignage de ses amis sur l'homme qu'ils ont connu. C'est donc une alternance de ces deux informations que vous allez maintenant entendre. Martin Heidegger, je suis né à Metzkirch, pays de Bade, le 26 septembre 1889, fils du sacristain et maître tonnelier Friedrich Heidegger et de sa femme Johanna, née Kempf, tous deux de confession catholique. J'ai fréquenté l'école communale de mon pays natal, de 1903 à 1906, le lycée de Constance, à partir de la seconde, le Berthold Gymnasium de Fribourg. Après avoir obtenu le diplôme de fin d'études en 1909, j'ai étudié à Fribourg-en-Brisgau jusqu'au Rigorosum. J'ai suivi les premiers semestres les cours de théologie et de philosophie, depuis 1911 surtout de philosophie, mathématiques et sciences de la nature, au dernier semestre aussi ceux d'histoire. Ce curriculum vitae est joint à la thèse de doctorat de Heidegger en 1914. Heidegger abandonne ensuite la théologie, il devient professeur de philosophie. Toute sa vie, il sera un professeur, partageant son temps entre ses cours, ses conférences et l'étude. En 1916, il fait la connaissance de Edmond Husserl, l'inventeur, le père de la phénoménologie, dont il reprendra la thématique même de la phénoménologie et dont il deviendra plus tard l'assistant. En 1923, il est professeur à Marbourg et c'est à partir de ce moment-là qu'il rédige sa grande œuvre, le seul vrai grand livre qu'il ait vraiment écrit, Sein und Zeit, l'être et le temps, d'où tout le reste de l'œuvre part. Il sera ensuite recteur de l'université de Fribourg en 1933, il démissionnera en 1934, il restera professeur pendant toute la période du fascisme et pendant la guerre. En 1945, les autorités françaises d'occupation le démettront de son poste, précisément à cause de sa participation à l'université nazie, et son poste, il le retrouvera cependant en 1950, grâce à l'intervention de ses nombreux amis et admirateurs. Depuis lors, il a continué à faire des cours jusqu'à sa retraite. Les grands thèmes de son œuvre, nous allons vous les présenter. C'est d'abord l'existence, le Dasein, et c'est ce qui a permis à son œuvre d'être si importante dans ce qu'on a appelé l'existentialisme. C'est surtout l'être, le sacré, la poésie, la technique et la question du monde moderne, enfin le temps. Dans cette émission, vous entendrez des personnes qui l'ont approché, qui l'ont connu, ses amis Kossas Akselos, Henri Corbin qui était son premier traducteur, Henri Biraud, Roger Munier, enfin deux jeunes Heideggeriens, Michel Haar et Henri Mongis. Donnons d'abord la parole à Kossas Akselos qui va parler du destin de Heidegger en France.
La question préjudicielle se pose. Pourquoi Heidegger et la France ? Parce que Heidegger vient de mourir et que nous sommes en France. En France, c'est-à-dire nulle part, non, en France, à savoir quelque part. C'est la question centrale qui vient alors se poser. Heidegger fut un penseur. Qu'est-ce donc la pensée? La pensée est ontologique et va au-delà de l'ontologie ou n'est pas. Qu'est-ce que la pensée ontologique et la pensée qui va au-delà d'elle? La pensée de l'être ou du monde comme horizon dépassant, dans l'horizon du temps, tout ce qui est et devient. De Maître Eckhart à Heidegger se manifeste la tradition spéculative allemande de la pensée. Heidegger, qui vient de mourir, en est le dernier représentant. Dernier, le terme demande à être explicité et à être compris dans sa mortelle gravité. Comment Heidegger fut-il reçu en France? Il le fut comme il se devait, c'est-à-dire comme il pouvait être reçu, à la française. C'est-à-dire, essayons de voir de plus près la réception de Heidegger en France, avec le maximum de rationalité et le minimum de passion, comme il sied à un pays hautement civilisé. Universitairement, des cours universitaires et des travaux universitaires sur Heidegger ont eu lieu. On s'en priva pas, pour mieux châtrer sa pensée et surtout ce qu'elle pouvait animer. Pour la ravaler au rang de la philosophie réflexive et de la métaphysique de l'entendement. Mais qui comprend encore la signification de ces expressions? Les universitaires qui eurent écho de l'importance de la pensée de Heidegger opérèrent avec lui comme pour dépecer un cadavre. Les exceptions, il y en eut, furent rarissimes. Il y a aussi un nom, Jean Beaufret. Son interprétation ne peut-elle que demeurer fort problématique? Peut-être. Théologiquement, les théologiens et les religieux essayèrent aussi d'accaparer Heidegger. Les tièdes fanatiques de Dieu et de leur Église ne reculèrent pas devant cette pensée. Ne s'agissait-il pour eux de l'absoudre? Indifférent à leur propre indifférence à l'égard de ce qu'est l'ouverture du monde, théologiens ecclésiastiques tirèrent le chapelet de leur poche et récitèrent la litanie de l'être, pour vaquer ensuite à leurs saintes occupations. Sociologiquement et politiquement, ici nous descendons plus bas que terre. Plate science de la platitude, la sociologie française ne supporta pas qu'une pensée la dépasse. Voulant situer ce qui l'a situé, elle ramena tout à sa propre banalité. La stature de Heidegger la gênait profondément. Elle essaya alors de déboulonner sa statue. Mais Heidegger demeurait absent. Le marxisme balbutia sur deux ou trois tons inlassablement la même rengaine Heidegger fasciste, en évitant soigneusement de penser, et pour cause, ce que le fascisme est et devient. Quant aux préoccupations politiques, si louables et si généreuses, se perdant dans les combines électorales ou dans les utopies de sur-sur-lendemain qui chanteront enfin, elles tombaient, encore une fois, victimes de leur naïveté et de leur calcul. Heidegger leur échappait, même politiquement. Pourtant, il y aurait à dire. Psychologiquement et psychanalytiquement, les individus français s'y prennent à la psychologie, il faut leur rendre cet immense mérite, ne surent pas alimenter une psychologie, puisqu'on en parle encore, et une psychanalyse osant entreprendre le dialogue avec la pensée heideggerienne. À l'exception des points de contact très circonstanciels de tels des psychanalystes français, la vague de la psychanalyse déferle et déferlera encore, pour combien de temps, non soucieuse de ce qui pourrait lui procurer une inquiétude féconde. Littérairement et esthétiquement, ni sur le plan de la littérature, la France, pays par excellence de la vie littéraire, ni sur le plan des considérations esthétiques, à savoir des contemplations de l'art mort, Heidegger, qui entretint des relations si étroites avec la poésie et la question de l'art, ne trouva écho en France. La littérature continue à aller bon train dans ce pays et l'esthétique funèbre prospère. Journalistiquement, si l'écrasante majorité des universitaires pratiquèrent à l'égard de Heidegger la conspiration du silence, les journalistes se laissèrent aller au bavardage. Publicisme et journalisme s'emparèrent certes de Heidegger, mêlés à toutes les autres dimensions de recherche et d'exposition. Pour dire quoi? Ce qui concerne les affaires culturelles, qui vont en courant, profitant de ce qu'on appelle journalistiquement crise. On pourrait aller jusqu'à se poser la question saugrenue. Philosophiquement, la France n'a-t-elle pas fait écho à Heidegger? Faire écho signifie assumer et productivement critiquer si l'ancien mot de critique a encore un sens. En France, ceux qui occupaient le devant de la scène officielle et contestataire recula devant la tâche. Ni la percée de la pensée heideggerienne dans la direction du futur, ni la mise en perspective et la monstration des limites de cette pensée, ni l'ouverture de cette pensée à une expérience autre que l'expérience habituelle ne furent osées. Surtout la possibilité, il est bien dit, la possibilité de l'ouverture de cette pensée à ce qu'on appelle platement vie ne fut pas envisagée. Fut-elle envisagée ailleurs? Sans doute pas. Mais nous sommes pour le moment ici, en France, et non pas ailleurs. La pensée souterraine est très rare qui entend la voix de Heidegger, ainsi que celle de ses grands prédécesseurs, se manifeste mais reste inaudible. Elle se soumet aux lumières et aux ombres d'un autre horizon qui ne peut rester à l'heure qui nommait. Il fut cependant nommé. Les pas qui conduisent vers l'avenir, avec et par-delà Heidegger, marquent la marche de l'étranger dont parla le poète Trakl, commenté par Heidegger. Dans l'étendue immense, nous tous, c'est-à-dire qui, nous étouffons. Tout se rétrécit. Dans la douleur immense, il nous reste d'expérimenter que la douleur, en nous quittant définitivement, a d'ores et déjà émigré dans un an ailleurs. Dans le silence immense, pouvons-nous encore entendre les paroles passées, présentes, à venir, qui nous ouvrent un horizon? Ou entendons-nous d'autres paroles? La question alors se pose. Lesquels? Un des derniers Mohicans vient encore de mourir, Heidegger. Il n'est pas nécessaire que l'écho de cette mort soit répercuté sur tout le territoire en général, ni sur le spécifique territoire français en particulier.
Heidegger a été connu du public français, surtout depuis la guerre, puisqu'en 1943 paraissait « L'être et le néant » de Jean-Paul Sartre, qui utilisait et citait abondamment « Sein und Zeit »,« L'être et le temps » de Heidegger. Il y eut à cette époque tout le grand débat de l'existentialisme. Mais, dès avant la guerre, une traduction de certains textes essentiels de Heidegger, des textes qui vont bien au-delà de l'existentialisme, et s'est offerte au public français par Henri Corbin, qui est devenu depuis le grand tyrannologue que l'on sait. Faire connaître au public un inconnu, c'est là quelque chose qui s'apparente à une prouesse. C'est quelque chose en tout cas qui demande une extrême perspicacité quand il s'agit d'un inconnu qui va devenir le plus grand philosophe de son temps. Et un certain courage aussi, tout à la fois pour imposer un nom nouveau et pour affronter les difficultés même d'une pensée et d'une langue inouïe. Henri Corbin donne maintenant son témoignage sur la manière dont il a ainsi inventé Heidegger et sur ce que Heidegger lui a apporté, bien que sa route se soit depuis lors séparée de la sienne.
Ma rencontre avec Heidegger est quelque chose de mémorable, décisive pour ma vie. Je n'en parle qu'aujourd'hui qu'avec grande émotion. Le point de départ, ça fut sans doute mes séjours en Allemagne, en 1930, entre autres à l'université de Marbourg, où j'entendis pour la première fois parler de l'œuvre de Heidegger. J'eus dans les mains le bâtisse métaphysique. Je fus terriblement excité, mais je me cassais les dents, je puis le dire, pour essayer de penser ce texte en français. J'entrepris cette traduction, puis j'ai eu une première rencontre avec Heidegger à Freiburg en avril 1934. Et puis, à ce moment-là, nous esquissâmes ce que pourrait être un florilège, un choix des textes les plus significatifs de son œuvre. En ce qui est en titre, nous avons passé à ce moment-là quelques jours à Freiburg, où j'ai vraiment de longues entrevues avec Heidegger, dont je garde un souvenir inoubliable. Nous parlâmes d'un tas de choses, et en particulier un témoignage que je puis apporter, c'est que, comme son traducteur, je m'inquiétais évidemment de la seconde partie de Seine und Zeit. Or, je l'ai vu. Lorsque je lui ai posé la question, il m'a montré sur sa table une gaine remplie d'un manuscrit volumineux. Il m'a dit, la seconde partie, la voilà. Ce qu'elle est devenue depuis, ça. À d'autres qui ont eu plus récemment des contacts avec le maître, de le dire. Enfin bref, ce recueil comprend, comme vous le savez, des traités, des opuscules intégraux et des extraits de Seine und Zeit et de livres circonstants, comme paru en juin 1938. Il m'est arrivé de lire, je ne sais plus où, mais j'ai lu ça quelque part, que, déçu par Heidegger, sa philosophie, je m'étais tourné vers le soufisme. C'est une interprétation biographique complètement fausse. Je tiens à rétablir les faits. Car mes premières publications sur Sohrawardi, grand philosophe mystique iranien à qui j'ai consacré une grande partie de ma vie, sont de 1933 et de 1935. Ma traduction de Heidegger est de 1938. Par conséquent, je conjoignais dès cette époque l'intérêt pour les deux domaines de recherche, les deux champs de recherche. Il semble, voyez, que pour les non-philosophes, ce soit très difficile de comprendre les étapes que suit un philosophe. À vrai dire, voyez, je ne suis, et je suis ni un germaniste, ni même un orientaliste. Je fus et je suis un philosophe, accomplissant sa quête là où l'esprit le guide. Et si cet esprit m'a guidé, voyez, à Freiburg d'abord, ensuite jusqu'à Téhéran et Isfahan, je crois pouvoir dire qu'en effet, ces villes sont pour moi restées ce qu'on appelle des villes emblématiques. Il s'est passé, déjà, vous voyez, l'apparition de cette anthologie en 1938 précédait de 3 mois les événements de Munich, qui nous ont donné un très court répit avant le déchaînement de la Seconde Guerre mondiale, qui nous a tous dispersés et a fixé nos destins sur des voies que nous ne travaillons pas les uns et les autres. Si mon œuvre fut ce qu'elle fut, si je ne suis pas un historien, mais d'abord un phénoménologue, je le dois à cette extraordinaire et incomparable analyse de Heidegger, différenciant ce que j'ai traduit à l'époque comme l'historialité de la présence humaine et l'historicité au sens courant du mot. Cela me sera l'occasion également de dissiper certains graves malentendus. Je n'ai pas confondu l'analytique heideggerienne avec l'œuvre de mes métaphysiciens islamiques. La rencontre fut tout autre, j'espère, la rendre compréhensible aux philosophes. Mais je crois que ce témoignage Il était, toute autre considération mise à part, il est de mon devoir de le rappeler et de le formuler aujourd'hui.
Henri Corbin, vous avez donc traduit le premier Heidegger en France en 1938, mais étiez-vous le seul à le connaître à cette époque? Et comment votre recueil a-t-il été reçu à cette époque?
Donc, nous étions quelques-uns, une poignée à le connaître. Mais je crois que je mettrai, n'est-ce pas, en avant surtout le souvenir d'un très cher vieil ami, qui était Alexandre Coiré. Alexandre Coiré, dans l'affaire L'éloge de son œuvre de philosophe, nous devons un ouvrage monumental sur Jacob Boehme, celui qui nous a fait connaître le spirituel du protestantisme. Sa formation était d'origine russe et puis germanique. Et les atteint que pour mon contact avec la phénoménologie et ma traduction de Heidegger, il m'a été d'une aide incomparable. Les rapports étaient ensuite, après 1933, vous le devinez, devenus un peu plus difficiles. Nous sommes efforcés de rester uniquement et purement des philosophes.
Le distancement caractéristique de l'être avec autrui implique que l'être-là se trouve dans son être en commun quotidien sous l'emprise d'autrui. Il n'est pas lui-même, les autres l'ont déchargé de son être. Les possibilités d'être quotidiennes de l'être-là sont à la discrétion d'autrui. Autrui, en ce cas, n'est pas quelqu'un de déterminé. N'importe qui, au contraire, peut le représenter. Seul importe cette domination subreptice d'autrui à laquelle l'être-là dans son être avec autrui s'est déjà soumis. Soi-même, on appartient à autrui et l'on renforce son empire. Les autres, que l'on nomme ainsi pour dissimuler le fait que l'on est essentiellement l'un d'eux, sont ceux qui, dans l'existence commune quotidienne, se trouvent être là de prime abord et le plus souvent. Le « qui » n'est ni celui-ci, ni celui-là, ni soi-même, ni quelques-uns, ni la somme de tous. Le « qui », c'est le neutre, c'est le « on ».
Heidegger de Être et Temps, tel qu'il fut lu, cité et popularisé par Sartre, c'est le philosophe de l'existentialisme. Qu'est-ce que l'existentialisme? C'est une pensée, ou un courant de pensée, tout entier centré sur l'existence et l'existence de l'homme, telle qu'elle se donne immédiatement à lui-même, antérieurement à tout contact avec le cosmos et avec les sciences de la nature qui décrivent le cosmos, antérieurement aussi à toute psychologie et à toute morale. Cet homme, réduit à sa pure existence, c'est le fameux Dasein de Heidegger, ce que Corbin traduisait par réalité humaine, et qui veut dire l'être là de l'homme, certes, mais il vaut mieux dire l'être là parce que, justement, Heidegger ne parle pas, veut ne pas parler de l'homme en tant que tel, en tant qu'homme de l'humanisme. Et le Dasein, en tant que son existence a pour lui un sens, est un être en situation, comme disait Sartre après Heidegger, c'est-à-dire un être emporté par le temps et par les urgences du temps, un être de projet. Mais ceci en tant que son existence a pour lui un sens. Car son existence peut aussi ne pas avoir de sens, elle est en effet guettée par le danger du non-sens, de la chute dans le domaine des simples objets qui sont platement les uns à côté des autres. Il ne faut pas que le Dasein de l'homme soit un objet parmi les autres objets, qu'il tombe dans l'inauthenticité et perde alors tout ce qui est promis à l'être. Toute une problématique de l'authenticité et de l'inauthenticité, du « on » et de l'angoisse, apparaît ainsi dans « Sein und Zeit ». Michel Arr, qui vient de nous lire un texte de ce livre, continue à nous en parler, et après lui, Henri Biraud parlera de l'être.
La question de l'être renvoie pour Heidegger à une analyse, l'analyse de ce qu'il appelle le Dasein, c'est-à-dire l'être-là. Qu'est-ce que l'être-là? L'être-là est un être au monde qui n'est ni sujet ni objet, il a une unité en quelque sorte antérieure à l'objectivité avec le monde. Cet être-là, quand on le décrit, quel est-il le plus souvent? Il est le plus souvent sur le mode inauthentique, dit Heidegger. Il n'y a pas là un jugement moral. L'inauthenticité, l'inauthentique, c'est l'existence sur le mode des autres.
Par exemple, j'accepte les discours quotidiens comme normes. Mes possibilités sont déterminées par les autres. Je ne sais pas d'abord qui je suis. Alors le problème que se pose Heidegger, c'est comment cet individu, comment le Dasein peut-il être lui-même, peut-il trouver son unité? D'autant plus qu'il est dans le temps, c'est-à-dire qu'il est toujours en avant de lui-même, toujours déjà là, il est en quelque sorte dans une dispersion. Alors le « on », c'est un élément de cette dispersion.
À quoi s'oppose,
une expérience que Heidegger, sur laquelle Heidegger s'est expliqué plus tard, et qui est l'expérience de l'angoisse. Alors il faut expliquer cette expérience de l'angoisse, car l'angoisse est le passage de l'inauthentique à l'authentique, c'est-à-dire le passage du « on » au « soi ». Heidegger explique l'angoisse en disant qu'elle est le sentiment fondamental de la situation, c'est-à-dire que toujours, à tout moment, je sais où j'en suis. L'angoisse est le mode fondamental de ce sentiment, c'est-à-dire que dans l'angoisse disparaissent toutes les finalités extérieures, tout ce que le monde me propose comme fin possible, et il ne reste plus que ce que Heidegger appelle l'être au monde comme tel, c'est-à-dire la pure présence comme un mystère et comme le fait, la tâche d'avoir à être, d'avoir à poser un projet propre, d'avoir à réapproprier à son nom, en mon nom propre, les possibilités qui sont d'abord les possibilités des autres. Donc l'angoisse arrache le Dasein à sa déperdition dans le on et lui permet d'être lui-même. Mais l'angoisse ne lui donne aucun contenu. Comment est-ce qu'il peut être lui-même? Eh bien, il faut une seconde dimension pour Heidegger, qui est la dimension de l'être pour la mort. On a aussi très mal compris la dimension de l'être pour la mort, puisqu'on l'a comprise comme une philosophie pessimiste qui visait simplement le néant. En fait, l'être pour la mort, c'est la visée d'une possibilité qui m'est absolument propre. Personne, dit Heidegger, ne peut mourir à ma place. Sur le plan du « on », tout est égal, tout est substituable, c'est-à-dire que je peux aussi bien aimer qu'un autre, je peux aussi bien parler à la radio qu'un autre, mais seul je meurs, et cette mort n'est pas ma mort de fait, mais c'est mon pouvoir mourir. Mon pouvoir mourir m'habite en quelque sorte comme la possibilité d'avoir en propre un certain nombre de fins et de projets. Donc c'est la possibilité d'unifier son propre temps, sa propre temporalité, de trouver sa propre temporalité et de se projeter par anticipation vers sa fin, vers ce que la philosophie appelle la finitude. C'est d'assumer sa finitude à tout moment.
Qu'en est-il de l'être lui-même? Une première chose d'abord, c'est que le mot « être » doit être pris dans un sens verbal. Il s'agit du verbe « être » et non pas du mot « être » tel qu'il peut être entendu comme substantif, un être de telle ou telle nature, les êtres matériels, les êtres spirituels, ou même l'être suprême, ou même encore l'ensemble, la totalité des choses existantes, c'est-à-dire des êtres. Deuxièmement, si l'être n'est aucun être en particulier, si l'être n'est pas quelque chose, s'il n'est pas ceci ou cela, il faut encore ajouter que le verbe être doit être entendu lui-même à partir de l'expression « il est » ou « il y a ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser le « il est » ou le « il y a » à partir du verbe « être », de l'infinitif « être », mais au contraire, penser l'infinitif, le verbe « être » à partir de ces petits mots « il y a »,« es gibt ». Ce n'est aucune chose présente, c'est la présence de toutes les choses présentes et absentes.
car il y a une présence des choses absentes, comme absentes, qui peut bien l'emporter en présence sur la présence des choses présentes.
Alors les choses présentes, Heidegger les appelle les étangs.
Tout ce qui est, est étang. Tout ce qui est, à quelque titre que ce soit, sur la terre ou dans le ciel, de nature matérielle ou spirituelle, peut être, doit être appelé un être, ou plus précisément quelque chose qui est, quelque chose qui participe à l'être, et que par conséquent, on doit appeler le participe présent, c'est-à-dire un étang. C'est pourquoi la traduction de Das Seiende par l'étang n'a rien en soi d'insolite, hein, et ne fait que respecter en quelque sorte cette idée que tout ce qui est prend part ou participe à l'être, à ce que vous appeliez tout à l'heure la présence, mais en comprenant bien que cette présence n'est nullement réductible à l'ensemble des choses présentes. Disons que cette présence, ou cet il y a, ou cet être ainsi entendu, se différencie profondément de tout ce qui est. Ce qui est, nous venons de le voir, c'est l'étang. Par conséquent, se pose un problème qui est pour Heidegger le problème de la différence être-étang. Il faut d'abord comprendre que être et étang ne constituent pas les deux termes préexistants d'une relation seconde ou troisième qui viendrait s'instaurer entre eux. La relation est première, la différence est première par rapport à ce qui est différencié dans cette différence, c'est-à-dire l'étang qui ne cesse pas de se différencier par rapport à l'être. Et l'être, lui-même, est la puissance autodifférenciante par rapport à ce qui est. C'est en ce sens qu'on peut dire que par rapport à ce qui est, par rapport à l'étang, l'être est le non-étant. Étant en latin se dit ins, le non-étant ça sera donc le né-ins, ce né-ins en français s'appelle le néant. Par conséquent, l'être, comme il y a, est, s'il est pensé à partir de l'étant, à partir de ce qui est le néant. Dès qu'il y a le il y a quelque chose, dès qu'il y a quelque chose, il y a le il y a. L'un n'est pas l'autre, l'autre n'est pas l'un, mais l'un ne va jamais sans l'autre, et l'un n'est pas non plus le contraire de l'autre. Il est le tout autre de l'autre, mais il n'est pas son contraire.
La différence ontologique, voulez-vous préciser ce que c'est ?
Oh, la différence ontologique n'est rien d'autre que ce que je viens d'essayer d'évoquer, à savoir, pour le dire d'abord de manière très grossière, la différence entre l'être ou le il y a et l'étant ou le quelque chose. Le reproche que Heidegger ne cesse pas de formuler à l'égard de toute la philosophie, de la pensée ou de la représentation philosophique ou métaphysique comme telle, c'est qu'à chaque fois, elle trouve son point d'ancrage dans le quelque chose.
Laissons ici la parole à Heidegger. Pourquoi donc y a-t-il l'étang et non pas plutôt rien ? Telle est la question de Leibniz. Et il y a lieu de croire que ce n'est pas une question arbitraire. Pourquoi donc y a-t-il l'étang et non pas plutôt rien ? Telle est manifestement la première de toutes les questions. La première, elle ne l'est pas, bien entendu, dans l'ordre de la suite temporelle des questions. Au cours de leur développement historique à travers le temps, les individus, aussi bien que les peuples, posent beaucoup de questions. Ils recherchent, ils remuent, ils examinent quantité de choses avant de se heurter à la question « Pourquoi donc y a-t-il l'étang ?» et non pas plutôt rien. Il arrive à beaucoup de ne jamais se heurter à cette question, S'il est vrai qu'il s'agit non pas seulement d'entendre et de lire cette phrase interrogative comme simplement énoncée, mais de demander la question, c'est-à-dire de faire surgir son horizon, de la poser, de se forcer à pénétrer dans l'horizon, de se questionner. Et pourtant, chacun de nous se trouve quelques jours, peut-être même plusieurs fois, de loin en loin, effleuré par la puissance cachée de cette question, sans d'ailleurs bien concevoir ce qui lui arrive. À certains moments, de grand désespoir par exemple, lorsque les choses perdent leur consistance et que toute signification s'obscurcit, la question surgit. Peut-être ne nous a-t-elle touché qu'une fois, comme le son amorti d'une cloche qui pénètre en notre être-là et se perd de nouveau peu à peu. La question est là, dans une explosion de joie, parce qu'alors, toutes choses sont métamorphosées. Et comme pour la première fois autour de nous, au point qu'il nous serait plus facile, semble-t-il, de concevoir qu'elles ne sont pas, que de concevoir qu'elles sont, et sont dans l'état où elles sont. La question est là, dans un moment d'ennui, lorsque nous sommes également éloignés du désespoir et de l'allégresse, mais que le caractère obstinément ordinaire de les temps fait régner une désolation dans laquelle il nous paraît indifférent que les temps soient ou ne soient pas, ce qui fait de nouveau retentir sous une forme bien particulière la question « Pourquoi donc y a-t-il les temps et non pas plutôt rien ?» Voilà ce que dit Heidegger. Cette question questionne sur le « il y a ». Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et non pas « Pourquoi y a-t-il quelque chose ?» les temps. Heidegger dévoile l'importance, la luminosité du « il y a », alors que la métaphysique classique insistait, elle, sur le « quelque chose ». C'est là toute la métamorphose, comme dit Heidegger, la rupture inouïe de Heidegger avec la métaphysique, c'est-à-dire d'une certaine manière avec toute la philosophie. Nous sonderons tout à l'heure les conséquences de cette rupture, l'espace qu'elle nous ouvre, mais arrêtons-nous à la rupture elle-même, elle nous conduit à la personne du philosophe Heidegger que le jeune Roger Munier était allé voir, frappé par cette nouveauté absolue de la question de Heidegger.
J'ai connu ce grand homme qui a eu dans ma vie une très grande importance et auquel je suis infiniment reconnaissant d'avoir été pour moi ce qu'il a été. Je l'ai connu en 1949, j'avais 26 ans. Je me trouvais en Allemagne pour faire de l'allemand, simplement, au titre des relations culturelles. C'était l'occupation. Heidegger vivait à cette époque dans la zone d'occupation française. Et je me trouvais à Saint-Blasien où j'ai appris la présence, dans l'immédiat voisinage, des philosophes que j'admirais le plus à l'époque et dont j'avais tout de même déjà assez sérieusement étudié pas mal de textes. Alors je me suis dit, allons le voir. Quelqu'un m'a amené en voiture jusqu'au pied d'une pente à partir d'un petit village qui s'appelle Tottenauberg, et on m'a dit, en me montrant une maisonnette très perdue au milieu des prairies, voilà, c'est là-haut. On y allait par un sentier, une sorte de petit chemin de terre, qui n'est pas le chemin de terre, je le dis tout de suite, qui a fait l'objet de la publication que l'on connaît. Mais c'était un grand détour et j'ai préféré suivre le chemin abrupt et direct des marchandises que l'on hissait à l'époque par un câble qu'un cheval, en descendant la pente, faisait monter. C'est ainsi qu'on approvisionnait la hutte, c'est-à-dire la sorte de petite cabane maisonnette, plutôt refuge de montagne qu'autre chose, où Heidegger vivait pendant les mois d'été. Il a beaucoup travaillé là. Il travaillait d'ailleurs, je le dis tout de suite parce que c'est intéressant, dans une absence totale de livres. Il travaillait dans une symbiose avec le cadre naturel qui était vraiment tout à fait remarquable, car le paysage est grandiose. On entendait, ce n'est pas du tout de la pastorale, c'était la réalité même, on entendait des clochettes, des troupeaux de vaches qui étaient dans la proximité, et le Feldberg, qui est une haute montagne de la forêt noire, se dressait un peu plus loin. Et je suis donc arrivé, j'ai frappé. C'est sa femme qui m'a ouvert. Je lui ai dit, voilà,
suis un étudiant français, j'ai une grande admiration pour le professeur Martin Heidegger, et je souhaiterais le rencontrer. Je n'avais pris aucun rendez-vous, rien. Elle m'a dit entrer, en français. Elle était très accueillante. Et là, j'ai vu Heidegger qui était assis à sa petite table. Sa table était face à la fenêtre, il y avait une petite montre sur la paroi. Des papiers sur la table, dans un rayonnage. Quelques livres, dont en m'approchant, j'ai reconnu qu'il s'agissait, entre autres, de la critique de la raison pure de Kant, qui n'était d'ailleurs là que parce qu'il corrigeait les épreuves de la seconde édition de son livre sur Kant. Autrement dit, pas de livre. Des petits papiers sur la table où il écrivait énormément de choses qui étaient disposées d'une manière étrange. Et c'est sur l'un de ces petits papiers qu'il m'écrira deux ou trois choses que, naturellement, je lui demanderai de me préciser. Alors la conversation était difficile, je parlais mal allemand. Il s'en est vite rendu compte et il m'a dit « Mais parlez donc français et moi je parlerai allemand ». C'est comme ça que notre première rencontre a eu lieu. J'étais très frappé par l'accueil, extrêmement chaleureux dans la réserve de cet homme qui alliait une sorte de bienveillance et d'intelligence un petit peu campagnarde, avec dans le regard une flamme extrêmement vive de temps en temps, mais un ton de voix lent. J'avais comme l'impression que la pensée se déployait dans les mots qu'il choisissait bien lentement.
Ob wir es einmal noch erkennen, Hölderlins Dichtung ist für uns ein Schicksal. Es wartet darauf, dass die Sterblichen ihm entsprechen.
Dire que quand il venait en France, quand François Sédier allait le chercher en voiture pour les séminaires du Thor, François Sédier m'a souvent dit que, au passage de la frontière, son visage s'illuminait. Il était heureux de venir chez nous. Il trouvait un accueil, il trouvait une compréhension très grande en France. Et inversement, quand il rentrait en Allemagne, au passage de la frontière, son expression se rembrunissait de nouveau.
Il était solitaire en Allemagne ?
Il était solitaire et il est resté jusqu'à la fin, extrêmement solitaire, infiniment plus.
Mais même d'un point de vue idéologique ?
Ah, tout à fait, essentiellement d'un point de vue idéologique.
Vous ne voulez pas dire qu'il
a eu... Il y a des professeurs, ça... Vous comprenez, ça... J'avais des rapports très, très précis et très personnels avec lui, puisque nous recevions à la maison ses petits-enfants et nous faisons un échange avec nos propres enfants. Et sa petite fille, Ulrike, nous disait qu'il y avait beaucoup de professeurs en Allemagne, des professeurs de philosophie, qui ne connaissaient pas le nom de Heidegger.
Vous ne voulez quand même pas dire ce paradoxe immense que, au fond, Heidegger serait une invention française.
Je me demande dans quelle mesure ce n'est pas, si vous voulez, l'attention très grande que les Français lui ont donnée qui a assuré un passage à l'universel de la pensée de ce grand Allemand.
Mais aujourd'hui en Allemagne, comment est-il reçu ?
Eh bien, je ne pense pas qu'en Allemagne, aujourd'hui, il soit mieux reçu qu'il n'était. Les courants dominants, qu'il s'agisse de celui de l'école de Francfort, qu'il s'agisse de la linguistique, n'est-ce pas ? Dans une lettre récente, Heidegger m'écrivait que l'unique tâche qui s'impose aujourd'hui face à la dévastation de la pensée par la dialectique, par la théorie des sciences et la linguistique, c'est de tenir présent dans la lumière de cet inapparent, dont sans doute vous parlerez beaucoup au cours de cette émission et qui est l'être, les ressources de l'esprit, d'un esprit qui n'est que très peu l'esprit du temps.
Si Heidegger a eu ce succès, je dis succès entre guillemets, car il y a eu et il y aura des modes heideggeriennes, mais le succès de Heidegger est bien différent d'un succès de mode. S'il a eu ce succès et cette fortune dans l'univers idéologique contemporain, c'est peut-être parce qu'il a eu l'audace d'établir et d'affirmer avec une espèce d'obstination une différence ou une distance, et par là en quelque sorte une échelle de valeur, de degré de dignité. Cette différence, nous l'avons déjà expliqué, c'est celle qui sépare un certain mode d'exister platement propre aux objets, qu'ils soient les objets que l'on voit dans la science ou ceux que l'on utilise dans la technique, et un mode d'exister tout différent qui est leur existence même, leur être même, le fait même qu'il y a des objets. Alors cet être des objets, distinct des objets eux-mêmes, Heidegger l'a médité toute sa vie et de différentes manières en différentes formules. Il a cru pouvoir le reconnaître d'abord dans la philosophie grecque, celle des présocratiques, Héraclite et Parménide, qui ont les premiers nommé l'être. Et c'est pourquoi il a tant commenté ces philosophes, on peut même dire qu'il les a sortis de l'oubli savant où ils étaient depuis longtemps tombés. Et il a justement commenté un autre grand philosophe grec, il disait d'ailleurs les Grecs en général, désignant par là comme une seule personne collective générale, un philosophe grec, Aristote, qui a parlé de la poiesis des choses, leur production, leur apparition. Il y a la poiesis et la techné, technique ou art, qui fait surgir un objet des mains et de la pensée d'un artisan. Il y a aussi la poiesis de la nature, c'est-à-dire de la physis, par laquelle les fleurs éclosent, les hommes naissent. Poiesis, production, apparition des choses en leur être, c'est le terme même qui a donné poésie. Et ce rapprochement est l'occasion, chez Heidegger, de toute une problématique de la poésie et du poétique, élevé par lui au rang de ce qui confère l'être, et donc produit et assure le maintien de la fameuse différence ontologique. Henri Biraud.
Le penseur dit l'être, le poète chante le sacré. Si nous examinons ces deux courtes phrases de Heidegger, nous voyons d'abord qu'il y a un voisinage essentiel entre penseur et poète, d'autre part que le dire du penseur et le dire du poète ne sont pas de même nature. Le dire du penseur est un dire dont on ne peut pas affirmer qu'il se présente nécessairement sous la forme d'un discours, mais qui, dans une certaine tradition philosophique, spécialement dans la cartésienne, s'est présenté comme un discours. En tout cas, ce n'est pas un chant. Le chant, au contraire du poète, est essentiel à son dire. Dire pour le poète, c'est chanter, et il n'y a pas d'autre manière de poétiser que de chanter. Tout poème est un chant, une ode. D'autre part, si le poète chante le sacré, le penseur pense, ou plutôt dit, les deux en vérité, l'être. La position de Heidegger est la suivante. Le penseur en tant que penseur n'a pas à chanter le sacré. C'est la fonction du poète. Mais il a à s'interroger sur l'essence du sacré. Cette interrogation sur l'essence du sacré, sur cette dimension sacrale dans laquelle tout ce qui est sacré peut prendre place, y compris les dieux eux-mêmes, c'est une des tâches de la pensée. Ce qui fait ici toute l'originalité de la pensée de Heidegger, c'est l'idée, si étrangère je crois à la pensée française, que le divin doit être pensé à partir du sacré, et non pas le sacré à partir du divin. D'une part. D'autre part, que les dieux, la déité même, doit être pensée à partir du divin et non pas l'inverse. Ou encore, d'une façon plus nette, si c'est possible, il ne faut pas dire qu'il y a du divin parce qu'il y a des dieux ou un dieu, comme c'est l'adjectif dérivé du substantif, il faut dire au contraire que la déité ou la divinité ou que l'espace de la divinité est ce dans quoi et ce grâce à quoi les dieux comme dieux peuvent se présenter comme absents ou présents, de telle sorte que les dieux empruntent leur divinité au divin.
L'être, la poésie et le sacré sont donc intimement liés. Comment le sont-ils? C'est ce qu'expose magnifiquement le recueil Approche de Hölderlin. Heidegger y cherche l'essence de la poésie, c'est-à-dire non pas ce qu'il y a de commun ou de général à tous les poèmes, leur plus grand dénominateur commun, mais ce qui fait que le poème est une poiesis, une apparition d'être et une création d'être. Hölderlin, poète allemand du tout début du XIXe siècle, est de ce point de vue un poète privilégié aux yeux de Heidegger, parce que non seulement ses poèmes, en tant que poèmes, contiennent et manifestent l'essence de la poésie, mais parce que cette essence, ses poèmes la disent ou la chantent, pourvu que l'on sache les lire ou les écouter. Et que dit Hölderlin dans ses poèmes? Que le langage poétique, le fait de poématiser dans et par le langage, est un bien pour l'homme, son bien à la fois le plus innocent et le plus dangereux. Le plus innocent parce que c'est un jeu, une activité qui n'a rien à voir avec la décision ou l'action qui mord immédiatement sur le réel et le transforme. Poématiser, c'est seulement parler ou dire. Mais c'est le jeu le plus dangereux. Le langage en tant que poésie est un danger. Pourquoi? Parce que c'est le danger des dangers, autrement dit, c'est lui qui commence par créer la possibilité même d'un danger. Le danger, dit Heidegger, est une menace de l'être par quelque étant. Or, ce n'est qu'en vertu du langage que l'homme se trouve exposé en général à un révélé qui, en tant qu'étant, l'assiège et l'enflamme dans son être-là, et en tant que non-étant, l'abuse et le désabuse. C'est le langage qui crée d'abord le domaine révélé où menace et erreur pèsent sur l'être. C'est lui qui crée ainsi la possibilité de la perte de l'être, c'est-à-dire le danger. D'autre part, le langage, en tant que poétique, recèle en lui-même et plus profondément un danger. C'est qu'à mesure qu'il se dit et se déroule, il engendre lui-même un monde, il n'y a donc pas un monde qui lui préexiste et dans lequel il se logerait en une position assurée. Il est donc création et création de création, il est originaire. C'est seulement parce qu'il est d'abord surgissement d'un monde que le langage devient moyen de communication entre les hommes, dialogue. Mais en même temps, puisqu'il est créateur, il est d'emblée à l'écoute des créateurs, ceux que Hölderlin appelle les célestes, c'est-à-dire les dieux. Le langage poétique nomme les dieux, et s'il les nomme, c'est peut-être parce que les dieux eux-mêmes nous interpellent en lui. Dans le langage poétique, nous sommes à l'écoute des dieux qui nous interpellent. La poésie ouvre l'espace du sacré. Heidegger a donc commenté et lu les poètes, Hölderlin, Trakl, mais aussi en France, René Char. Et surtout, emporté par cet élan ou cette dévotion de l'être, il a lui-même parlé poétiquement. Et dans ses poèmes, il réunit le dire poétique et la pensée, car le poème ne serait rien s'il était un simple enthousiasme ou un sentiment. Le poème dit, et il dit quelque chose, et il lit des choses précises. Voilà ce que Heidegger poétiquement dit. L'assombrissement du monde n'atteint jamais la lumière de l'être. Nous venons trop tard pour les dieux et trop tôt pour l'être. L'homme est un poème que l'être a commencé. Si le courage de la pensée vient d'un appel de l'être, ce qui nous est dispensé trouve alors son langage. Dès que nous avons la chose devant les yeux et que notre cœur est aux écoutes tendues vers le verbe, la pensée réussit. Henri Mongis, vous avez 26 ans, vous êtes un Heideggerien, vous êtes un jeune Heideggerien, vous avez déjà écrit une thèse sur Heidegger
et la critique de la notion de valeur qui a été préfacée par Martin Heidegger et qui va bientôt apparaître. Vous avez connu Martin Heidegger dans les dernières années de sa vie et vous avez décidé de consacrer votre existence philosophique, du moins dans ses débuts, à Martin Heidegger. Et j'aimerais que vous nous parliez d'une chose que nos invités jusqu'à présent n'ont pas tellement traitée, c'est la question du temps chez Heidegger, le rapport entre la question du temps et la question de la métaphysique.
La question du temps est en effet au cœur de la question de la métaphysique chez Heidegger. Ce n'est pas du tout une question extérieure, ce n'est pas du tout une question adventice, c'est véritablement une question centrale dans la mesure où l'histoire de l'être, l'histoire de la métaphysique occidentale, est l'énigme du temps lui-même, en quelque sorte. Pour comprendre ce lien intime entre les deux questions, il faut sans doute d'abord faire référence à la question directrice de la métaphysique. La métaphysique est la philosophie qui questionne sur les temps comme tels et en totalité. Cette interrogation, cependant, ainsi que la réponse qu'elle appelle, ainsi que la démarche qu'elle exige, n'ont été possibles qu'à la faveur d'une compréhension déterminée de l'être, ou encore du sens de l'être. Le problème, c'est que les Grecs n'ont pas aperçu et n'ont pas problématisé l'horizon de cette compréhension, pas plus que leurs successeurs dans la philosophie occidentale. S'interrogeant en effet sur l'être de l'étang, la métaphysique occidentale, dès le début, a pointé son regard, en quelque sorte, au-delà de lui, en grec, méta veut dire par-delà, vers, au-delà de l'étang en totalité, vers son fondement. Le mot métaphysique veut dire que la pensée envisage la physis sous le rapport de son fondement. Au livre A de la métaphysique, Aristote dit que la science suprême, la protéphilosophia, est la science qui porte sur les premiers principes et les premières causes, c'est-à-dire sur les premiers fondements. Cela veut dire que l'être est compris immédiatement comme fondement de la totalité de l'étang, cette compréhension implicite dominant par la suite toute la philosophie occidentale. Marx, par exemple, est métaphysicien, dans la mesure où il fonde la totalité du réel sur la praxis matérielle et historique de l'homme. Nietzsche est aussi métaphysicien aux yeux de Heidegger, et ce en dépit de son antiplatonisme, dans la mesure où il rend compte de tout ce qui est à partir de ce qu'il appelle l'essence intime de l'être, à savoir la volonté de puissance. Donc, il s'est toujours agi de dévoiler le fondement de l'étang, c'est-à-dire ce à partir de quoi ou ce par quoi l'étang en totalité peut être. Être ce qu'il est et de la manière dont il est. Or, le rapport avec la question du temps apparaît immédiatement si l'on considère que ce fondement de la possibilité de la physis est simultanément saisi comme la présence constante de l'étang. Cette détermination originaire de l'être comme présence est capitale pour Heidegger. Déjà, le mot « étang » signale quelque chose. Ce mot est le participe présent du verbe « être ». L'étang présent participe à l'être ou participe de l'être. De quelle manière? La philosophie occidentale répond « l'étang participe de la présence constante ». L'étang a part à l'être, a part à la présence, en tant qu'il est fondé par la présence elle-même, qui est l'être. C'est ainsi que, dans le livre Zeta de la métaphysique, Aristote dit que la question Titoon, qu'est-ce que l'étang, équivaut à la question, qu'est-ce que l'outia, qu'est-ce que la présence constante, qui fonde la possibilité de la présence de l'étang. De même, Platon disait, dans le livre 6 de la République, que les philosophes sont amoureux du savoir qui porte sur l'outia, à savoir sur cette présence idéétique qui, à ses yeux, n'est pas sujette aux vicissitudes de la génération et de la corruption. Mais, du fait qu'il est saisi ainsi comme présence, L'être est compris dans l'horizon du temps, parce qu'il est compris en rapport à un mode du temps.
Qui est le présent.
Un mode déterminé du temps qui est le présent. Pour la métaphysique, l'être, c'est donc la présence constante, au fondement de toute présence. Enfin, ce qui est à remarquer, c'est que toute la métaphysique semble céder à l'appel du repos, de la halte définitive, semble céder à l'envie de la constance. Cela n'est pas seulement vrai pour l'idéa suprasensible de Platon, à laquelle on pense immédiatement. L'esprit absolu de Hegel, par exemple, ou la praxis matérielle de Marx, ne sont pas moins des fondements constants, même s'ils impliquent une dialectique ou un mouvement temporel intrinsèque. Nietzsche est peut-être le philosophe du devenir, mais comme il s'agit toujours du devenir de la volonté, c'est-à-dire d'un devenir constant, il reste métaphysicien.
Alors en quoi Heidegger rompt-il par rapport à cela?
Eh bien, Heidegger rompt avec l'ontologie du devenir dans la mesure précisément où il pense que cette détermination de l'être comme devenir constant se situe dans l'horizon du temps lui-même. Du fait qu'elle se crispe, enfin, qu'elle somnubile, hein, sur le dévoilement présent de l'être, la métaphysique oublie à chaque fois le temps d'où provient ce dévoilement.
C'est pour
en
ça
d'autres
que
termes,
Hegel dit que le présent a un droit absolu.
C'est ça. La métaphysique réduit l'être au présent, pas dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, réduit l'être à l'immédiatement présent, à ce qui est immédiatement advenu, et en même temps, elle réduit l'être au don immédiat qui lui est fait. Le mot présent ici doit être retenu dans les deux sens. La métaphysique réduit l'inéluctable, l'inépuisable éclaircie de l'être. L'inépuisable avenir de l'être, si vous voulez, à la présence immédiate, à la présence immédiatement cédée. C'est-à-dire, avec Heidegger, dans Zeit und Sein, dans Temps et Être,
une conférence qu'il a faite bien après L'être et le Temps,
c'est ça,
et qui reprend le titre qu'aurait dû porter la seconde partie non publiée de Sein und Zeit.
Exactement. Dans cette conférence, Heidegger réinterprète en quelque sorte le sens traditionnel du mot présence, du mot utia, ou du moins dévoile son sens implicite. Présence veut dire alors approche de l'être, advenu de l'être vers l'homme. Alors, la métaphysique ne voit pas que cette présence, que ce déploiement de l'être, n'advient à chaque fois qu'à la faveur d'un jeu temporel complexe où se retient, où se ménage l'avenir de l'être. Autrement dit, elle ne voit pas que l'être se dévoile en se voilant, qu'il advient à chaque époque en retenant son avenir, qu'il ne s'approche de l'homme, en quelque sorte, qu'en se tenant à distance, qu'en ménageant ses advenus, proches ou lointaines. Mais le problème, mais l'énigme, c'est que cet aveuglement n'est pas le fait de l'homme. C'est que cet aveuglement tient au temps lui-même. Quand Heidegger dit par exemple que le monde moderne est l'ère de l'absurdité, est l'ère de la parfaite absence de sens, c'est ce phénomène qu'il a en vue. Ainsi pour Heidegger, l'époque moderne est-elle le comble de l'errance. L'errance, ce n'est pas du tout la perte du sens, c'est bien plutôt la consécration d'un sens unique. C'est bien plutôt la consécration illimitée d'un sens déterminé dans l'oubli de sa limite temporelle. Enfin, c'est ça qui est l'oubli du temps.
Heidegger, c'est la méditation de l'être de l'homme qui est le Dasein, et de l'être en général ou pour lui-même. C'est la méditation de la poésie qui s'installe dans l'éclaircie de l'être et constitue ainsi la dimension du sacré. C'est la méditation du temps comme constitutif de l'être lui-même. Si Heidegger était tout cela et rien que cela, c'en serait assez sans doute pour que chacun en tire profit pour son propre compte et établisse, comme on dit, le lien de cette pensée avec la vie concrète. Mais Heidegger a commencé à établir lui-même ce lien avec cette fameuse question de la technique qui est une description et un jugement du monde moderne. À vrai dire, Heidegger ne fait pas concurrence à Marx sur le terrain de l'analyse du monde technique moderne. Mais sa critique, car il s'agit véritablement d'une critique, rejoint, et pour une bonne part elle les a inspirées, les critiques contemporaines du machinisme, de ce qu'on a appelé la société de consommation, la société où tout, objet et personne, est lancé dans la circulation d'un gigantesque marché universel où objet et personne perdent leur sens. Les objets sous l'empire de la technique deviennent les cibles d'une production qui n'a plus rien à voir avec la poésie sous ce recueil l'être, même lorsque ce sont des objets naturels. Le dévoilement qui régit la technique moderne, dit Heidegger, ne se déploie pas en une production au sens de la poésis. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse, comme telle, être extraite et accumulée. Mais ne peut-on en dire autant du vieux moulin à vent ? Non. Ses ailes tournent bien au vent et sont livrées directement à son souffle, mais si le moulin à vent met à notre disposition l'énergie de l'air en mouvement, ce n'est pas pour l'accumuler. Une centrale électrique est mise en place dans le Rhin. Elle le somme de livrer sa pression hydraulique qui somme à son tour les turbines de tourner. Ce mouvement fait tourner la machine dont le mécanisme produit le courant électrique pour lequel la centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission. Dans le domaine de ces conséquences, s'enchaînant l'une l'autre à partir de la mise en place de l'énergie électrique, le fleuve du Rhin apparaît lui aussi comme quelque chose de commis. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui, depuis des siècles, unit une rive à l'autre, c'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. Ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, à savoir fournisseur de pression hydraulique, il l'est de par l'essence de la centrale. Afin de voir et de mesurer ne fût-ce que de loin l'élément monstrueux qui domine ici, arrêtons-nous un instant sur l'opposition qui apparaît entre les deux intitulés, le Rhin, muré dans l'usine d'énergie, et le Rhin, titre de cette œuvre d'art, qui est un hymne de Hölderlin. Mais le Rhin, répondra-t-on, demeure de toute façon le fleuve du paysage, soit. Mais comment le demeure-t-il ? Pas autrement que comme un objet pour lequel on passe une commande, l'objet d'une visite organisée par une agence de voyage, laquelle a constitué là-bas une industrie des vacances. Ainsi risque d'être perdu, dans cette volonté de produire pour produire, qui n'est pas une volonté de puissance au sens de Nietzsche, qui aurait une certaine allure, mais une volonté de volonté, comme dit Heidegger, qui s'engendre monstrueusement elle-même, risque d'être perdu ce sens de la production d'être, ou poiesis, qui assure à l'homme, être qui a le sens de l'être, sa dignité, c'est-à-dire son maintien dans son essence, c'est-à-dire encore, en définitive, la jouissance à laquelle il est destiné. Ainsi, l'analyse par Heidegger de la technique moderne équivaut à une condamnation, non pas de la technique en tant que telle, mais de la technique en tant que le monde moderne la place au poste de commandement. Et elle équivaut donc à une condamnation du monde moderne. C'est de cela, de ce sens qu'a et qu'aura la pensée de Heidegger dans l'avenir pour nous autres, les hommes vivants dans le monde moderne de la technique, que débattent nos invités Michel Haard, Roger Munier, Henri Biraud et Kostas Axelos.
Il était très difficile de pénétrer dans l'intimité réelle d'un homme comme lui, mais je peux vous assurer qu'il ressentait de façon précise l'espèce de distorsion dont je parle, à savoir que le monde est donné et qu'en même temps il est refusé, et que l'homme, suivant le poème de Trakl justement, est fait effectivement bien un étranger. Il est à la fois cette duplicité de la pensée, qui est effectivement la clé pour y voir clair et pour y comprendre quoi que ce soit, est bien rassemblée dans le fameux vers d'Antigone, qui est cité, je crois, dans l'introduction à la métaphysique, « Pantoporos aphoros et pudens erkletai ». Tout dépend de la ponctuation, là où on la met, Hölderlin arrête là la phrase, ce qui veut dire « Pantoporos riche en de toutes sortes d'astuces, disons l'homme technique, aporos, en même temps inexpérimenté et bloqué, époudène erquetaille, il va vers le rien. Mais vers le rien qui n'est pas le nihilisme, vers un rien qui est simplement l'espèce de vibration intérieure à la présence, qui me semble être l'expérience même de l'être. Alors ça, on est installé, autrement dit, en tant qu'homme, dans une distorsion, dans une sorte d'éclatement, et je pense que ce que Heidegger pense de l'homme, c'est qu'il n'est homme, et profondément homme, que quand il accepte cette dualité-là en tant qu'inconfortable. Il n'y a pas de recette précise, ni même immédiate.
Mais croyez-vous, Roger Munier, que cette expérience de l'autre, cette place libre pour l'absence, ne soit pas chez Heidegger l'expérience du sacré?
Oui, on pourrait probablement y voir le prodrome de l'expérience du sacré, mais pas l'expérience elle-même.
Henri Biro n'a pas l'air d'accord avec...
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. D'abord, si vous le permettez, mon cher Munier, je ne crois pas qu'on puisse dire, mais c'est une question finalement de vocabulaire, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'être ou le il y a, tel que j'ai essayé de le définir, soit l'absence, pour la bonne raison que Heidegger, dans ses derniers opuscules, le définit explicitement comme présence, comme parousie ou comme présence. Ceci posé, c'est pourquoi notre divergence est tout à fait relative et purement verbale, il est non moins vrai que dans cette présence elle-même, il y a un constant mouvement de rétraction, de rétention ou de réticence qui fait que l'être, à la faveur d'une prodigalité que je qualifierais de réticente ou d'une donation, pour ainsi dire, soustrayante, ne cesse pas de se dérober en même temps qu'il se destine à la pensée et qu'on ne comprend rien à la pensée de Heidegger si on n'entre pas dans l'intimité de ce double mouvement par lequel l'être se donne pour être pensé et se donne à la pensée pour être pensé, oui, mais se donne sur le mode du refus. D'autre part, la métaphore de la lumière, et cela, moi aussi, je le tiens d'une conversation déjà ancienne avec Heidegger, est fondamentalement dangereuse, car elle risque de nous conduire vers des interprétations aberrantes de Heidegger. Dans les derniers écrits, vous savez aussi bien que moi tous, que Heidegger montre comment, en allemand, le mot « lumière » (das Licht) doit être interprété à partir de l'adjectif leicht, qui veut dire léger. Au fond, comme en anglais, light veut dire à la fois la lumière et en même temps désigne l'adjectif léger. Donc il faut penser l'être, non pas en termes de lumière, au sens lointainement platonicien et biblique de cette notion, qui ferait que Heidegger, d'une manière ou de l'autre, serait reconduit dans les chemins de la pensée occidentale ou à la fois grecque et judéo-chrétienne, mais au contraire comme allègement, comme dégagement, comme ouverture, comme apérité, qui, dans son inconsistance même, donne faveur et licence à tout ce qui est de pouvoir être.
Mais si il n'y avait pas cette expérience du sacré chez Heidegger, puisque vous refusez ce terme. Inversement...
Non, je dis qu'il doit y avoir chez Heidegger une pensée de l'essence du sacré, mais pas du tout d'expérience du sacré.
Oui, mais enfin, est-ce que c'est...
Car enfin, les textes de Heidegger sur le sacré, en dehors des commentaires sur les poètes, se réduisent à très peu de choses. Et il est bien trop conscient de la différence abyssal qui doit séparer penseur et poète pour vouloir établir une sorte de passerelle, ou comme il le dirait volontiers de Pont aux Ânes, entre la pensée et la poésie. La seule tâche de la pensée, c'est de penser ce que peut être l'essence du sacré. Oui, ah oui, le problème. Pas l'expérience du sacré ni l'expérience
mais
du mystique.
Quel intérêt
le problème est tout de même.
Sacré.
Non, mais le problème est tout de même de savoir ce qui va sortir de cette définition dont le formalisme est absolument pur et escarpé, je le reconnais. Chez Heidegger, c'est certain. Chez vous-même, tel que vous le présentez, Henri Biraud, c'est sûr.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il peut sortir? Autrement dit, allons-nous indéfiniment répéter ces mêmes évidences ténues, précises, irréfutables? Je crois que s'il y a une ouverture quelconque, elle peut quand même être du côté de ce qui est au moins rendu possible par cette première approche de pensée qui n'est que de pensée. Vous avez bien raison de le souligner.
Oui, c'est toujours l'expérience de la pensée.
Quand ça dit c'est
l'autre. C'est pas autre chose.
À propos, d'abord je voudrais revenir deux secondes sur l'expression pertinente de Biraud, pensée de la double pensée, on pourrait dire pensée de la double vie. Et là, je pose la question, est-ce que Heidegger ne rejoint pas la métaphysique, c'est-à-dire le dualisme, comme il y avait la dualité entre la foi et le savoir, comme dans le marxisme il y a la dualité de la tactique chaque fois présente, et l'eschatologie ou l'utopie future, dont la psychanalyse ceci et cela. C'est-à-dire, si Heidegger ne rentre pas finalement dans le rang dont il est sorti, étant à la fois dedans et dehors, par accomplissant la métaphysique et restant métaphysique, et devenant un penseur de l'expérience, mais ne nous montrant à aucun moment le chemin de l'expérience. Il parle de l'expérience, qu'elle soit de ceci ou de cela, mais elle n'est jamais expérience. Ce n'est pas par hasard qu'il a si longuement et si profondément commenté le texte de Hegel sur l'expérience de la conscience.
Heidegger, d'une part, remonte bien en deçà de la métaphysique, et d'autre part va au-delà. C'est-à-dire que jamais il ne séjourne en quelque sorte dans les eaux moyennes de la métaphysique. Il y a une pensée de la technique ou une vie qui se développe dans l'ordre de la technique. D'accord? Bon, c'est pas de la métaphysique. Et d'autre part,
la technique est vue aussi comme la métaphysique non, solidifiée.
Si je conduis ma voiture, c'est pas de la métaphysique.
Oui et non.
En conséquence, non. Si je pense à l'essence de la technique, pour Heidegger, ce n'est pas non plus de la métaphysique. Donc, c'est plus ou moins de la métaphysique dans les deux cas, mais ce n'est jamais de la métaphysique.
Oui, et moi, voyez-vous, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'il y a un côté neutre et, pour ainsi dire, blafard. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout sur quel sol on se situe. Le problème pour moi, je dirais, il est tout simple. Je suis en face d'un arbre, est-ce que j'y suis différemment si je fais à propos de cet arbre l'expérience de l'être ou si je ne la fais pas. Je demeure convaincu que Heidegger pense qu'un changement peut intervenir dans l'homme de telle sorte qu'il voit l'arbre différemment suivant qu'il fait ou ne fait pas l'expérience de l'être. Maintenant, comme tu l'as dit Costas, c'est tout à fait vrai, il ne dit pas de quelle manière ça peut se passer lui-même. Pourquoi? Parce que, comme Henri Biraud le souligne, il est un homme de la pensée et qu'il ne s'occupe pas de faire le pas vers l'expérience. Mais moi, ma question, je la répète de nouveau, parce que je demeure convaincu qu'elle n'est pas fausse par rapport à l'entreprise. Une fois que la pensée est à sa place, existe-t-il quelque chose d'ouvert du côté de l'expérience?
Mais Heidegger rejetterait cette dualité entre pensée et expérience.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Car pour lui, je m'excuse de vous avoir pris la parole.
Ah non, pas du tout.
C'est pour lui la même chose, ou plutôt la véritable pratique pour lui est une pensée. C'est-à-dire que la véritable expérience est une expérience que fait la pensée pour voir, pour diriger son regard autrement.
Mais une phrase, Michel, une phrase résume cela. Heidegger dit littéralement ceci, la pensée agit en tant qu'elle pense.
Oui, la pensée agit en tant qu'elle pense.
Donc il n'y a pas après à se demander quels sont les rapports entre pensée et action.
Mais je voulais dire quelque chose.
Et à faire descendre
Oui, d'accord. Mais le dernier séminaire qui devait avoir lieu devait, dans un premier temps, porter sur la vue phénoménologique. Et je me souviens que l'idée en est venue parce que j'étais avec précisément Henri Mongis, chez lui, et Mongis lui posait une question à laquelle Heidegger a répondu,
Et à un moment donné, il lui a dit, si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je ne peux pas vous l'expliquer.
Très bien.
Voilà.
Oui, ça, c'est parce que il n'y a rien à attendre. Alors, c'est ça qui est bon.
Exactement.
C'est précisément le formalisme pur de cette
Mais
pensée.
Il y a, dans le fait que l'interlocuteur pouvait ou non voir, une démarche intérieure et un mouvement intérieur à au dit interlocuteur, qui est, moi, ce qui m'intéresse. Quand l'interlocuteur voit, à la vue phénoménologique, il y a du changement. Et je me demande s'il n'y a pas, dans les faits, pour ainsi dire, l'écho du changement au niveau de l'essence qu'Heidegger ne cesse de réclamer.
Parce que là, vous êtes quatre, entre guillemets, heideggeriens, et comme Heidegger vient de mourir la semaine dernière, il n'est pas encore temps peut-être de polémiquer à son sujet. Et en plus de ça, comme vous êtes heideggeriens, vous vous en tenez un peu à la lettre de ce qu'il a écrit. Et alors ça donne cette impression que vous remarquez, si je vous ai bien compris, de neutralité un peu gênante pour quelqu'un qui n'est pas de la partie, parce qu'on se demande après tout qu'est-ce qu'ils en font
non,
pour eux.
Je ne crois pas qu'il y a une neutralité. Je crois que Heidegger voit la pensée
Chacun peut
comme...
Chacun peut faire sa confession.
Voit la pensée comme menacée. Je crois que c'est assez... il faut le voir tragiquement même, si on veut dramatiser un peu les choses. Heidegger voit ce qu'il appelle la pensée méditante, la pensée de l'être, comme menacée de disparition. C'est une dimension qui est de plus en plus avalée par la dimension de la pensée calculante. Il y a cette double, c'est ce que vous vouliez dire avec la double pensée, le maintien de la double pensée.
Exactement.
C'est l'œil gardé sur la pensée calculante qui est notre destin historial d'hommes occidentaux et la pensée méditante. Or la pensée méditante, elle est fragile, elle est sur le point de disparaître, elle est quelque chose qui est peut-être une dernière flamme qui vacille et ça c'est quelque chose d'extrêmement dramatique et pas neutre.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se replonger dans les textes de la philosophie grecque et dans les poètes allemands? Ou y a-t-il une pensée qui serait fidèle à Heidegger, mais qui serait
non,
plus tournée vers le monde actuel?
Oui.
Henri Biro.
Pardon. Je crois que il y a deux attitudes qui sont évidemment exclues. Ou bien une interprétation caricaturale de Heidegger, ou sa négligence, la négligence pure et simple à l'égard de cette pensée. Bon. Je crois que ceci est préjudiciable, non pas simplement pour des raisons de dévotion personnelle à l'égard de Heidegger, mais parce que Heidegger est et restera, j'en suis absolument convaincu, qu'on le veuille ou non, un des plus grands penseurs du monde. Je suis prêt à parier que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, on étudiera encore les textes de Heidegger, et il n'y a pas beaucoup de philosophes dont on puisse dire cela.
Bien sûr.
Car les modes philosophiques changent. Mais l'autre attitude... Et je crois que par là, je rejoins un peu l'inquiétude de mon ami Munier. L'autre attitude consiste en une sorte de dévotion, de mimétisme heideggerien, qui fait que, effectivement, on répète en quelque sorte, d'une façon pour ainsi dire religieuse, les mots clés de la chapelle heideggerienne. Alors, je crois que cela, Heidegger lui-même l'aurait réfuté. C'est à chacun d'entre nous, pour son propre compte, de voir ce qu'il peut faire avec cette pensée et de voir comment et si elle peut modifier sa propre manière de penser, sa propre manière d'exister. Et je crois que justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ce qui me paraît profondément honnête et profondément salutaire dans la pensée de Heidegger, c'est ce que j'appellerais son formalisme, c'est-à-dire son refus de nous donner des recettes de morale.
Si Henri Biro a raison et que Heidegger n'a pas lui-même dicté des règles de morale pour chacun de ses lecteurs, et que chacun de ses lecteurs doit les inventer pour son propre compte, il ne reste plus qu'à inviter les auditeurs, qu'ils soient philosophes ou non, à aller voir eux-mêmes dans cette œuvre touffue, mais riche en surprises et riche en plaisir, et en jouissance même à le lire, car c'est un des plus grands penseurs, un des plus denses qui ait jamais existé. Et je vous remercie donc, Roger Munier, Henri Biro, Michel Haar et Kostas Axelos.
C'était Hommage à Martin Heidegger par Philippe Nemo, première diffusion le 5 juin 1976 sur France Culture.